Nzamba.
Nzambi la samirana. Soyez tous les bienvenus sur la radio Nzamba Agathe Kakawe dans l'actualité de ce vendredi 2 juillet 2021. Meurtre d'un jeune de 21 ans dans la commune Mugamba au sud du pays. Il avait été libéré fin avril dernier au bénéfice de la grâce présidentielle. L'ONG Forum pour la conscience et le développement dénonce ce crime. Vague d'arrestations dans les provinces de Mwaro et Muramvya au centre du pays après l'attaque sanglante de Rutegama et Muramvya le week-end dernier. Attaque qui avait fait près d'une vingtaine de tués. Parmi les personnes appréhendées figure le directeur de la prison de Muramvya. Leurs proches dénoncent des arrestations arbitraires. Et puis la décision de faire payer les frais pour le transport des bancs pupitres que les candidats à l'examen d'État utiliseront met en colère les parents des élèves à Rumonge. Ces parents réclament la suspension de cette mesure. Les détails, c'est dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons cette édition avec la criminalité dans le sud du pays. Le corps sans vie d'un jeune garçon a été retrouvé le matin de ce jeudi sur la colline Gashishima, en commune Mugamba de la province Bururi. Nous sommes au sud du pays. Le jeune en question faisait partie des prisonniers qui ont dernièrement bénéficié de la grâce présidentielle. Le point avec Josephine Jones Munzimana.
Les informations en provenance de la colline Gashishima nous disent que ce jeune garçon du nom de Baserukiye Bernada a été enlevé mercredi 30 juin quand il gardait les vaches sur cette colline. Tout a commencé par un appel anonyme. Après cet appel, on ne l'a plus revu et la famille dit avoir attendu son retour à la maison, mais sans succès. Son corps a été retrouvé le lendemain matin et la population environnante pense que ce jeune homme aurait été enlevé par les éléments de la police. Les mêmes sources nous disent également que Baserukiye Bernada était prisonnier et venait de rentrer à la maison après avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Pour le moment, il était encadré dans le centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi, un centre situé dans la province de Rumonge. Vous saurez que le père de Bernardin Vasselouchillé fait partie des deux personnes qui ont été dernièrement relâchées depuis le cachot de police à Mugamba après avoir payé une certaine somme d'argent.
Au sujet de ce meurtre, le FOCODE, ONG qui lutte pour la défense des droits humains, se dit fortement choqué du traitement réservé aux personnes ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Pacifique Ninina Azwe, le président du FOCODE, est au micro de la radio Nzamba. On l'écoute.
Je voudrais dire ici toute ma peine pour l'assassinat d'un jeune de 20 ans. Nous sommes des parents. Je pense que toute personne, tout parent qui connaît la valeur d'un jeune de 20 ans et qui le voit ainsi gratuitement assassiné, ça fait très mal au cœur. Je voudrais également rappeler que Bernardin avait été arrêté très jeune. J'apprends qu'il avait probablement 14 ans au moment de son arrestation et voilà qu'il est aujourd'hui tué à 20 ans. Je rappelle encore une fois un autre cas que nous suivons depuis avril de cette année. Un certain Alexis Salimana, libéré le 26 avril de la prison centrale d'Omimba et qui a été enlevé quelques heures seulement après sa libération. Depuis cet enlèvement, Alexis Salimana n'a jamais été retrouvé et les autorités burundaises ne se sont pas préoccupées de son cas et jusqu'ici, les autorités ne font rien pour retrouver Alexis Salimana. Nous avons également des informations sur plusieurs autres cas d'arrestations intempestives un peu partout dans le pays, de personnes récemment libérées, qui sont souvent arrêtées par des agents du Service national de renseignement à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Et nous avons cette impression que les personnes récemment libérées sont sous une surveillance extrêmement considérée comme des citoyens de seconde zone, qui n'ont pas tous les droits des citoyens du Burundi. Je voudrais enfin souligner un autre cas de préoccupation, c'est la situation de jeunes hommes récemment rentrés qui ont vécu notamment au camp des réfugiés de Mahama au Rwanda. Là aussi, nous avons beaucoup d'informations, des gens qui sont agressés, qui sont arrêtés n'importe comment et à tout moment, et qui sont sous surveillance comme si ce n'était pas de vrais citoyens du Burundi.
Dans l'actualité judiciaire, 7 personnes ont été déjà appréhendées par le Service national de renseignement dans la commune d'Ava, c'est dans la province de Mwaro. Elles sont accusées d'être de mèche avec ceux qui ont mené l'attaque de Rutegama dans la province de Muramvya le week-end dernier. Une attaque qui avait fait près d'une vingtaine de morts. Les habitants de Ndava disent craindre pour la vie de ces personnes parce que ces arrestations se déroulent la nuit. Reportage signé Beni Akserakana.
Les personnes déjà arrêtées dans la commune d'Ava, du moins ceux qui sont connus de notre rédaction, sont en nombre de 7. Il s'agit d'Enoch Ngendakumana, Télésphore Ndabirabe, Gabriel Kaberege, Claude Chimilimana et Jean-Claude Nzoihaya. Les 5 sont des habitants de la colline Kabogi, de la zone Huzirachanda, de la commune Ndava. À l'exception d'Enoch Ngendakumana qui a été arrêté à Fota, son lieu de travail, d'autres ont été arrêtés sur la colline Kabogi. Les autres personnes qui ont été arrêtées sont Olivier Nahum Mukama de la colline Higiro et Venus Ndaishimiye, gérant de la coopérative Twijabutse de Fota. Les sources de la radio Inzamba de la commune Ndava révèlent que toutes ces personnes ont été appréhendées par Eliphaz Nyongabo, responsable du service national des renseignements dans la province Mwaro. Ils sont tous accusés d'être de mèche avec le groupe armé qui a mené l'attaque dans la commune de Rutegama, en province Muramvya, une commune frontalière de Ndava. Le responsable des renseignements dans la province Mwaro accuse les habitants de Kabogi d'être des hôtes de ce groupe armé non encore connu et de dire que ce groupe se serait volatilisé sur la colline Kabogi après l'attaque de Rutegama. Les mêmes sources indiquent que ces personnes ont été arrêtées depuis le 29 juin et de renchérir que ces arrestations se font tard la nuit. Les sources de la radio Inzamba Agateka Kawe font savoir que ces personnes ne sont poursuivies que sur base de simples suspicions parce qu'elles sont membres du parti sénat d'Agathon Gwasa. Et relatent en plus qu'au moment de l'attaque, toutes ces personnes étaient à leur domicile respectif. La rédaction de la radio Inzamba Agateka Kawe n'a pas encore eu la version d'Eliphaz Nyongabo, responsable du service national des renseignements dans la province Mwaro, pour éclairer l'opinion sur toutes ces arrestations intempestives qui opèrent dans la commune Ndava.
Dans la même affaire, le directeur de la prison centrale de Muramvya est accusé d'avoir participé à cette attaque de Rutegama. Télésphore Manirambona est détenu au quartier général du service de renseignement à Bujumbura. Il a été arrêté lundi dernier par le responsable du service de renseignement provincial. Après un bref interrogatoire, il a été directement conduit à Bujumbura. Les détails, c'est dans ce reportage de Josine Kadze.
Au PC2, Télésphore Manirambona est un officier de la police nationale du Burundi. Son arme de type Kalachnikov aurait été saisie parmi celles qui ont été utilisées dans une attaque sanglante de Rutegama dans la province de Muramvya la semaine dernière, selon les charges du ministère public. Il a été interrogé ce lundi. Sa réponse est que son fusil a été volé à l'intérieur même de la prison avant d'être directement transféré au bureau du service national des renseignements à Bujumbura, selon les sources policières. C'est incompréhensible, disent les habitants de la localité. L'officier devrait alerter ses supérieurs dès le constat du vol. D'autres inquiétudes, c'est le fait que le vol correspond avec le jour de l'embuscade. En date du 11 juin dernier, au PC2, Telfort Manilambona avait adressé une correspondance au procureur de la République à Muramvya. Dans cette lettre, il portait plainte sur le cas de son fusil KV-UC-0327 volé par des policiers gardiens de la prison centrale de Muramvya en date du 6 juin 2021, le dimanche de la fête catholique du Saint-Sacrement. Le Forum des organisations de la société civile burundaise Force en sigle demande des enquêtes indépendantes, respectueuses, dignes de tout prévenu. Ernest Murunziza, il est secrétaire exécutif du Force.
Comme nous le disons toujours, chaque fois qu'il y a un présumé coupable des infractions ou des crimes, il faut que les services habilités à faire les enquêtes fassent des enquêtes rigoureuses, des enquêtes indépendantes qui sont respectueuses des droits et libertés des individus. Ça nous fait très mal quand on observe dans ce pays des personnes qui sont arbitrairement arrêtés et qui sont emprisonnés de manière injuste. C'est une grave violation des droits de l'homme.
L'attaque de Rutegama a fait une vingtaine de victimes selon des sources à Muranza. Elle a eu lieu dans la nuit du samedi. Les autorités n'ont pas encore communiqué le bilan total officiel. Même les auteurs de l'attaque ne sont pas encore connus. À part cet officier de la police, une quinzaine de militants du parti CNL ont été arrêtés en commune Rutegama de la province Muranza et à Kabogi en commune Ndava de la province Ngaro.
Cela fait 9 mois que l'ancien député Fabien Bantidianino est sous les verrous. Il a été condamné à 1 an de prison. Il était accusé entre autres de rébellion. L'avocat activiste Gustave Nyonzima rappelle que le député Bantidianino a été arrêté et emprisonné en violation du code de procédure pénale. Gustave Nyonzima appelle la justice burundaise à se ressaisir et libérer cet ancien député connu pour son franc-parler car son dossier est vide. Écoutons maître Gustave Nyonzima.
On voit que son dossier reflète des aspects politiques et non judiciaires. Il y a eu beaucoup d'irrégularités notoires au niveau de la violation du code de procédure pénale. Normalement, souvenez-vous qu'il a été présenté devant l'OPJ sans aucune assistance d'un avocat de son choix. Et ceci viole l'article 10 alinéa 5 du code de procédure pénale. L'OPJ devait lui dire qu'il a le droit de garder le silence en l'absence de son avocat de son choix, ce qui n'a pas été fait. Aussi, il a été présenté devant la chambre de conseil en dehors des délais légaux prévus par l'article 155 alinéa 3 du code de procédure pénale, c'est-à-dire 15 jours. Or, il a été présenté devant cette chambre dans les 22 jours. Aussi, au niveau du fond, son dossier est vidé de sens parce qu'il avait une immunité de parole et d'écriture en tant que député pour présenter ses arguments au niveau de l'Assemblée nationale. Il est victime d'avoir osé dire la vérité, disant que le président Nkurunziza ne méritait pas titre de guide suprême, comme il est à la source de la crise de 2015 et a emporté pas mal de gens, surtout des opposants. Donc, que la communauté internationale soit interpellée, il vient de passer 9 mois en prison alors qu'il n'a rien commis. C'est un innocent qui est là, qui ne devait pas être puni, plutôt devait être récompensé et primé pour avoir dit la vérité. Mais c'est un héros qui est victime, qui est innocent, qui bafoue les libertés d'expression et d'opinion. Donc il faut que même la justice puisse se corriger et redorer son blason au niveau de l'appareil judiciaire. Il faut que même cet appareil judiciaire redore son blason dans le sens de le mettre en liberté.
Rappelons que Fabien Bantidianino est détenu à la prison centrale de Mimba depuis le 8 octobre 2020. Le 7 mai dernier, le tribunal de grande instance de Nahangwa l'a condamné à 1 année de prison et au paiement d'une amende de 100 000 francs burundais. Cet ancien député est élu dans la circonscription de Bubanza et poursuivi pour rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État.
Inzamba.
Suite de ce journal, avec cette grogne des parents des élèves de la province de Rumonge, candidats à l'examen d'État qui sanctionne la fin des études secondaires. Les autorités scolaires exigent aux parents de payer de leur propre poche le transport des bancs pupitres sur lesquels vont s'asseoir leurs enfants lors de la passation de l'examen d'État. Ces parents estiment que c'est le gouvernement qui devrait plutôt prendre en charge ces frais. Les détails avec Diane Nkurunziza.
La somme d'argent collectée est de 1000 francs burundais. Les concernés sont les lauréats des écoles secondaires de toute la province de Rumonge qui vont bientôt passer l'examen d'État. Les frais sont officiellement destinés à faciliter le déplacement des bancs pupitres des différents établissements vers le centre de passation de l'examen d'État. Le centre est situé sur la colline Lukinga de la commune et province Rumonge. Des autorités scolaires disent que ces bancs seront empruntés aux différents établissements du centre urbain de Rumonge. Cependant, des sources au sein de la direction provinciale de l'enseignement à Rumonge indiquent que ces bancs pupitres seront plutôt empruntés aux écoles fondamentales se trouvant autour du même centre. Le dit centre est situé à une distance de 200 à 500 mètres, selon nos sources à Rumonge. Des élèves et leurs parents parlent simplement d'un vol déguisé. Selon eux, le gouvernement, à travers la direction provinciale de l'enseignement, devrait prendre en main cette question. Certains parents et élèves proposent d'ailleurs que le déplacement soit assuré par les élèves eux-mêmes pour diminuer les dépenses. Des parents et leurs enfants exigent que cette collecte de fonds s'arrête pour l'intérêt de tous. Nous avons essayé de contacter le directeur provincial de l'enseignement pour sa réaction, mais sans succès.
Et du football pour terminer en beauté, les matchs des quarts de finale de l'Euro 2020 débutent ce vendredi avec le match entre la Suisse et l'Espagne. Il sera suivi du choc entre l'Italie et la Belgique. En Copa América, pour la même étape de la compétition, le Brésil accueille le Chili et le Pérou jouera contre le Paraguay. Les détails avec Blaise Nijimbele.
Les matchs des quarts de finale sont très importants puisque les équipes s'approchent petit à petit de l'objectif final. Entre l'Espagne et la Suisse, deux équipes qui ont passé par les prolongations à huitième de finale, on s'attend à un match équilibré. Lors de la Ligue des Nations de 2018, au premier match, les deux équipes se sont séparées par un match nul et vierge. Mais la seconde rencontre a été remportée par l'Espagne sur la plus petite de marque. Avec deux confrontations entre les deux formations, la Suisse n'a gagné qu'une seule fois, mais elle a été revigorée par sa victoire sur la France. Elle rêve encore de créer la surprise même si la tâche ne sera pas facile. À 21h, il y aura un choc de 7 quarts de finale entre la Belgique et l'Italie, un match pris par pas mal de gens comme une finale avant terme. Même si l'Italie a montré les difficultés à 8e de finale, elle reste une équipe redoutable. C'est une équipe sans star mais qui compte beaucoup sur le collectif des joueurs qui se trouvent les yeux fermés. L'Italie vise cette année le deuxième titre après celui décroché en 1968. Devant l'Italie se trouve la Belgique qui court toujours derrière le premier titre. Cette année peut être la meilleure, mais il faut d'abord éliminer l'Italie. Les Diables Rouges risquent de jouer sans leur meneur de jeu, Kevin De Bruyne, et Eden Hazard qui se remettent de leurs blessures. Si son forfait pour son match, ça sera un coup dur pour la Belgique. Le vainqueur de son match jouera contre le gagnant entre l'Espagne et la Suisse le 6 juillet à Wembley. En Copa América, c'est également les quarts de finale. Le Pérou et le Paraguay qui n'ont pas brillé pendant les matchs de groupe jouera à 23h. Le Brésil accueillera quant à lui le Chili à 2h du matin. Ce pays est favori pour son match, même si le Chili ne manque pas d'arguments.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. Très bonne soirée à tous, au revoir.